France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Alain Cavalier vers 19h45, Affaires critiques. Lucille Comeau nous parlera du film Dirty, Difficult, Dangerous de Wissam Sharaf, qui sortira demain en salle. 19h50, Affaires en cours par Marie Sorbier. Pourquoi un éditeur français a-t-il été arrêté alors qu'il se rendait à la foire du livre londonienne? Jean-Yves Mollier, spécialiste de l'édition, nous dira en quoi cette histoire est un symptôme de la société française contemporaine. Le tout est réalisé par Alexandre Faugeron avec Audrey Guélil et Alex Dang à la prise de son. Bonsoir Alain Cavalier.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir alors que votre nouveau film, L'Amitié, sortira demain dans les salles de cinéma. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on pourra très bientôt se procurer le combo Blu-ray DVD de votre film Libérame, sorti en 93. On pourra se procurer dès le 9 mai prochain en version restaurée en 4K chez Tamassa. De bonnes raisons, s'il en fallait, pour vous inviter, vous remercier tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. On va pas revenir évidemment ici sur votre parcours, ce que nous avons l'habitude de faire avec nos invités. Il faut dire que vous avez tourné votre premier court-métrage il y a 65 ans. Alors, je voudrais essayer de vous interroger sur quelques éléments qui me semblent importants pour essayer de mieux approcher votre travail, votre façon de faire du cinéma. Alors, dire tout d'abord, Alain Cavalier, que vous avez passé 7 années dans un pensionnat religieux, chez les Maristes, et que si vous prenez un athéisme joyeux, on peut considérer que vous avez fait des évangiles, votre grammaire cinématographique, bien avant votre film Thérèse. Mais l'autre grand livre qui vous accompagne depuis l'enfance, c'est l'Odyssée. Alors, les évangiles, l'Odyssée, quels compagnons sont-ils pour vous?
Les évangiles, ça a été ma BD, la BD de mon enfance. Le Christ qui marchait sur l'eau, qui multipliait les petits pains, qui changeait l'eau en vin. J'y ai cru profondément.
Jusqu'à quand?
J'ai avalé l'hostie, la première communion, j'ai avalé le Christ à 7 ans, dans un état d'extase absolue. Et puis, quand j'ai appris que le Christ, en fait, n'avait pas marché sur l'eau, que c'était des agents publicitaires, après sa mort, qui avaient arrangé tout ça, j'ai un petit peu laissé tomber tout ça. Et il appelait très souvent son père dans les évangiles quand il avait des problèmes, où il conseillait aux autres de se mettre sous son regard. Et j'ai abandonné son père aussi, mais j'ai gardé beaucoup de choses de lui, surtout résistant romain, qui occupait son pays. Et moi, j'étais occupé par les Allemands, donc j'ai été très sensible à ça. Il a été torturé et il est mort. Donc, il m'est resté des choses, et obscurément, et je m'en rends compte aujourd'hui, c'est que le regard de Dieu m'a toujours... Quand je tournais avec des acteurs, quand ils mimaient la mort, l'amour, l'ivresse, etc., je me disais, mais c'est un mensonge, et on va être pris là, la main dans le sac. L'acteur, le film et moi. Donc je mettais en scène des mensonges. Et petit à petit, ça a fait obscurément son chemin. Je le sais maintenant que ma vie est un roman, je connais les tiroirs maintenant. Et je n'ai pu continuer à faire des films que en filmant la vie telle qu'elle est au moment où elle se passe. Voilà.
Et l'Odyssée?
L'Odyssée, c'est que comme on était pensionnaire, il fallait occuper les enfants et on a appris le latin pour traduire les évangiles, mais on a appris le grec aussi, hein. Et le grec, c'était païen. C'est-à-dire, il y avait des dieux partout qui couchaient ensemble, qui se donnaient des coups, etc., etc. C'était le contraire, en fait, de ce qu'on nous apprenait. Mais, Et vous vous rendez compte qu'à l'âge de... on a commencé en quatrième, jusqu'en première, à un âge vraiment pratiquement d'enfant, je lisais Homère dans le texte. Mais parce que on avait des après-midi entières à l'étude, on était, je veux dire... Et ça m'a beaucoup, évidemment, frappé, l'imagination, les récits, et les récits à la fois réalistes et fantastiques de l'Odyssée. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique.
Alors, il y a autre chose, en effet, qui a accompagné une bonne part de votre enfance, Alain Cavalier, et puis de votre entrée dans l'âge adulte, c'est la guerre. D'abord, l'occupation, évidemment. Puis, jeune adulte, il y a la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Vous auriez dû être appelé, en raison de votre classe d'âge, d'ailleurs. Mais Libérame, puisque ce film sorti en 93 et qui va donc ressortir, et c'est très heureux, c'est un film absolument bouleversant, le mot est un peu galvaudé, mais il va ressortir dans quelques jours, donc je suis heureux que beaucoup de gens puissent le découvrir. Peut-être c'est un film alors sans parole, qui nous plonge dans la vie quotidienne, sous un régime totalitaire, militaire, dans lequel on va voir se mettre en action un réseau de résistants. Est-ce que ce film-là, Alain Cavalier, c'est celui de la possible réconciliation avec la nature humaine ?
C'est un film fait sans échappatoire métaphysique après la mort. C'est sur la mort. C'est sur les gens qui acceptent d'être torturés. C'est sur... vous vous rendez compte, c'est-à-dire que moi j'avais 9 ans en 1940, quand l'Allemagne s'est emparée de l'Europe. Et j'avais 45 ans quand la guerre s'est terminée. Donc, ma formation. Et en Europe, il y a eu 40 millions de morts, civils et militaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour tuer 40 millions de personnes en 4 ans, 4-5 ans, c'est du boulot. Hein, c'est du boulot. Hein, c'est des professionnels du meurtre. Et ça, évidemment, je n'en suis pas sorti aujourd'hui. Alors, je le refoule, mais en même temps, mes films en ont été marqués, voilà. Et je n'accuse personne, je ne vais pas dire que l'Allemagne est responsable, mais je préciserai quand même qu'ayant eu une formation chrétienne, c'est une guerre entre chrétiens. Alors, il y a les chrétiens, évidemment... catholiques, les chrétiens ceci, les chrétiens cela, mais c'est entre chrétiens, hein. Donc, c'est pas mal. Et le cinéma français, pendant 4 ans, en plus de ça, a tourné beaucoup de films pour distraire, en fait, les gens des difficultés de l'occupation, du manque de nourriture, etc., etc. Mais on ne voit pas un seul soldat allemand dans les rues. Et on verra ça encore dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 1000 ans. Et on ne saura pas du tout.
Le contexte que historique.
C'est un mensonge absolu. Voilà.
Mais force du cinéma, pour continuer un peu dans l'enfance, alors je crois que vous avez vu votre premier film comme spectateur à l'âge de 7 ans, Alain Cavalier, et que les visages, très vite, vous ont troublé, ces visages immenses de femmes sur les grands écrans, mais aussi sur les affiches. Hein. On voit celui de Veronica Lake sur une affiche dans votre nouveau film. Et puis quand vous avez eu une caméra, il paraît que vous n'avez pas tout de suite pu filmer les visages. Vous êtes beaucoup rattrapé. Depuis, plus tard dans vos films, ceux qui sont devenus de plus en plus personnels, on a d'abord entendu votre voix. Et puis on a commencé à percevoir votre visage, Alain Cavalier, dans les reflets. Il y a un film qui s'appelle Elle, Seule, qui dure 10 minutes, où vous avez fait un nouveau montage, on pourrait dire, de votre film La Chamade, en ne gardant que les plans de Catherine Deneuve. On voit le visage de Catherine Deneuve. Filmer un visage, est-ce que ça reste pour vous la dimension fondamentale du cinéma ?
Je pense que le cinéma est né... érotique. C'est-à-dire que tout de suite, les cinéastes ont filmé. C'était des mâles, en général, on filmait des femmes. Souvent, c'était leurs petites amies, comme avant, ils peignaient des vierges pour gagner leur vie, et l'Église payait, et c'était leurs copines aussi, qui posaient. Donc, ils ont commencé, c'était exactement la même chose. Et c'était assez divin pendant un certain temps. Et puis l'argent, étant donné que ça marchait que dans le monde entier, les salles étaient pleines, c'était nouveau, c'était extraordinaire, et que les cinéastes étaient persuadés qu'ils avaient quasiment inventé une nouvelle langue, puisque tout le monde comprenait, il n'y avait pas de dialogue, et les images racontées, tout le monde comprenait, c'était ça qui était extraordinaire. Et puis, l'argent est rentré là-dedans, ça a été codifié, on a choisi des actrices sexy, on a tout ça, des acteurs costauds, avec des héros positifs, et c'était surveillé, sous haute surveillance. Voilà.
Et ça vous émeut toujours autant de filmer les visages ?
Alors moi, je suis quand même... Mon grand-père est né la même année que Louis Lumière, vous vous rendez compte ? Mon grand-père aurait pu être Louis Lumière. C'est à mourir de rire. Donc c'était hier que le cinéma est né. Hein. Je pensais à mon grand-père, mais j'ai perdu le fil de votre question.
Ça vous émeut toujours de filmer les visages.
Oui, et j'ai été véritablement, érotiquement travaillé dès mon enfance et mon adolescence par des gros plans des femmes. Et je me suis demandé, mais qui fait ça, qui filme ça, etc. J'ai remonté la filière, et puis j'ai su qu'il y avait un type qui disait qui les éclairait et qui parlait avec elles. Alors c'est peut-être pour ça que je fais des films. Enfin, que je faisais des films avant, parce que j'ai abandonné ce sport-là.
Il y a quelques temps. Bah tiens, je vais résumer d'ailleurs. C'est ce qui vous a amené à l'IDEC, hein, aujourd'hui renommé la Fémis. Après, vous avez été assistant, Édouard Molinaro, Louis Malle, hein, sur l'ascenseur pour l'échafaud, Les Amants. Et puis un premier court-métrage, je le disais, en 58, avec Maurice Pialat comme assistant. Un premier long-métrage qui sort en 62, Le Combat dans l'île, Romy Schneider, Jean-Louis Trintignant. Il y aura ensuite L'Insoumis avec Alain Delon, Léa Massari, deux films très politiques dans le contexte de la guerre d'Algérie. Et puis, quand vous terminez votre quatrième long-métrage à Chamade, vous avez souvent raconté que vous avez eu un fou rire incontrôlable en voyant très bien jouer Michel Piccoli et Catherine Deneuve. Rire devant ce mensonge en vous disant c'est plus possible, je peux pas faire du faux, je peux pas mentir, comme vous l'expliquiez tout à l'heure Alain Cavalier. À partir de là, vous allez chercher à faire du cinéma autrement. Cette recherche, elle passe par le fait de ne plus avoir à écrire de mots pour les comédiens qui devraient l'interpréter. Dans un premier temps, il va s'agir d'écrire avec vos interprètes, ça donnera notamment Le Plein de Super ou Un étrange voyage. Mais qu'est-ce qui se passe avec Thérèse, ce film qui sort en 86 ? Il y a bien un texte, il est bien écrit. Quel est le projet de ce film-là, Alain Cavalier ?
Alors, c'est assez simple. C'est l'obsession religieuse, on ne s'en débarrasse pas comme ça, à la semelle de ces... Hein. Et je vais un jour dans une maison, il y a une chambre, on me donne une chambre, et dans le tiroir de la table de nuit, il y avait les petits écrits de Thérèse, parce que sa prieure lui avait dit, écoutez, comme elle était un tout petit peu d'une foi exagérée, pour la calmer un petit peu, elle lui disait, vous devriez écrire ce qui est, vos lettres à vos parents sont intéressantes, etc. Et elle s'est mise obligatoirement, obéissante, à écrire sa petite vie. Hein. Et ça a été publié après sa mort, et ça fait un succès mondial, parce qu'elle disait, pour être une sainte, avant, il y avait les escaliers, c'était très dur, mais maintenant qu'il y a les ascenseurs, on peut y aller plus facilement. Et ça a marché, et c'était vrai. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Et moi qui étais pensionnaire, qui ai cru comme elle, peut-être qu'il y a une petite connexion. Mais après, j'ai un peu déchanté. Je suis allé
à l'IDEC ?
Non, je suis allé
à Lisieux ?
À Lisieux. Et puis, il y avait un petit endroit où on faisait des études sur Thérèse. Alors, la prieure a compris que je suis là. Elle m'a dit, je vais vous faire visiter le couvent. Alors, elle me fait visiter le couvent. Il n'y avait aucune nonne, évidemment, puisque j'étais un homme, elle ne devait pas me voir. Et j'ai vu des couloirs, des petites cellules de 3 mètres sur 3, et des portes qu'on ouvre, qu'on ferme continuellement. Puis, non, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Hein. Et puis, les nonnes, je vais résumer très vite, les nonnes, un jour, ont décidé de montrer à tout le monde la vie matérielle du couvent. Thérèse, chauffée, pas chauffée, quel remède, etc. Qu'est-ce qu'elle mangeait, et c'était passionnant. Donc je me suis dit, j'ai une raison matérielle de pouvoir entrer et pénétrer dans un couvent cinématographique. Mais je n'étais pas encore proche du film, pas assez proche du film. Et j'ai vu un jour un tableau de Manet, Le Fifre. Et derrière Le Fifre, c'était très, très, très réaliste. Derrière, il y avait un fond neutre, mais vachement travaillé avec... Je me suis dit, voilà, peut-être que je peux essayer d'éviter les entrées de porte, le réalisme, avec, et de faire ça sur un fond neutre, comme certaines peintures anciennes. Et puis, à un moment, je me dis, si le risque est trop grand, si je trouve trouver une personne qui fasse Thérèse et que ça soit à moitié bien, qu'elle soit pas mal, mais pas suffisante, etc., c'est un risque impossible. Mmh. Ah, voilà. Et puis, j'allais régulièrement au conservatoire de comédiens, et un jour je vois une personne assise sur le sol du théâtre du conservatoire avec un ballon carrément entre les cuisses comme ça, et de l'eau sortait régulièrement de ce ballon et descendait vers moi. J'étais au deuxième, c'est là où j'ai compris que les scènes étaient un tout petit peu en pente, et elle disait la mort de Mouchette, une petite fille de 12 ans, dans un roman de Bernanos, qui se suicide en roulant vers l'eau. Et qui, voilà. Et c'était... Je me suis dit, là, partenaire, je lui serre la main mentalement, hein, et je suis allé la voir, et j'ai terminé le scénario même sur son dos, en prenant des choses d'elle. Et j'ai fait finalement le film. Vous voyez qu'un film, ça se fait pas tout de suite.
Non, celui-là en tout cas, mais il a marqué ô combien les esprits. Mais la question, alors, disons de la vérité au cinéma, je mets beaucoup de guillemets sur vérité, évidemment, autant de ce mot. C'est une question qui reste sans réponse, mais l'intérêt, c'est sans doute de la poser. Elle peut l'être de différentes façons. Alors, parmi les autres cinéastes qui se sont posés les mêmes questions que vous, Alain Cavalier, je vous propose d'écouter une archive de France Culture et on va écouter Jean Renoir.
Au départ, lorsque j'ai commencé le cinéma, je croyais évidemment à un cinéma entièrement transposé. Je ne croyais pas à un cinéma réaliste. J'avais la conviction que l'écran était une espèce de scène de la comédie italienne dans laquelle des personnages jouaient leur rôle, mais sans souci de représenter la vérité extérieure. Puis un beau jour, je me suis aperçu que cette vérité extérieure m'était bien commode. Je me suis aperçu que par la vérité extérieure, si vous voulez, par l'aspect véritable d'un monsieur qui marche dans la rue, ou d'un ouvrier plombier qui répare une salle de bain, je me suis aperçu que par leur intermédiaire, je pouvais peut-être espérer joindre un tout petit peu de cette vérité intérieure. Je dis un tout petit peu parce que cette vérité intérieure... Faut pas être trop ambitieux. Quand on arrive à gratter un tout petit bout, faut s'estimer bien heureux. Personnellement, ça m'est peut-être arrivé deux, trois fois dans ma vie de dire la vérité, mais enfin, ça m'est pas arrivé bien souvent. Parce que la vérité, c'est d'abord très difficile à définir. Qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce que n'est pas la vérité? C'est ça qui est passionnant dans notre métier. C'est que c'est une façon d'essayer de découvrir la vérité.
Jean Renoir s'exprimait ici. Alain Cavalier, quand vous avez réalisé pour Arte la série intitulée 24 portraits d'Alain Cavalier, est-ce que c'est pas une façon d'accomplir ce projet formulé par Jean Renoir dans l'archive qu'on vient d'écouter, d'aller voir les gens au travail?
C'était pas le but, n'a jamais été pour moi l'abstraction de la vérité. Parce que ce que je propose au public, c'est mon angle, ma vision. Ma vision, ma vue, hein, et mon oreille, pas autre chose. Et c'est ça auquel j'ai tenu petit à petit dans mon travail, c'est que ça ne peut être réussi que si c'est vraiment le condensé d'une seule personne, et pas le fruit du choix d'un acteur qui permet de financer un film, donc de choisir un très bon opérateur qui, lui, a sa carrière à faire, etc., etc. Tout un ensemble de forces qui fabriquent les films, et où, quelquefois, le cinéaste, on le reconnaît, mais il est très surveillé, en fait. Très, très surveillé. Et moi, ces portraits-là, je les ai faits encore avec un opérateur et un ingénieur du son. Et après, les ingénieurs japonais, merci à eux jusqu'à la fin de mon existence, m'ont permis d'avoir un outil qui tient dans ma main. Et quand mon cerveau fonctionne, regarde et entend quelque chose qui me plaît, qui me touche ou qui me fait peur, je peux filmer immédiatement. Mmh. C'est ça le problème.
Ça, c'est la nouvelle mue du cinéma d'Alain Cavalier, 96. Et le premier film qui en découle, c'est La Rencontre, qui ne peut exister sans ces petites caméras et sans ces ingénieurs japonais.
Ça fait 30 ans.
J'ai
commencé en 93.
13, ouais. Ah, oui.
Et j'ai publié en 96 Ma Rencontre avec François Bizoff.
Ouais.
C'est-à-dire ce que je vivais, tout simplement.
Mais à ce moment-là, je sais que votre caméra remplace alors presque entièrement votre journal écrit. Alors, il y a des choses qui restent quand même du domaine plus qu'intime. Vous êtes devenu un homme caméra.
Oui, mais j'écris aussi. Parce que d'abord, on ne peut pas tout filmer. Hein. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont infilmables. C'est-à-dire, il est évident que, et on le sait ici, que toute décision de pouvoir importante, les caméras et les micros, on surveille que vraiment il n'y a rien dans la pièce. Hein. Et puis, et je ne parle pas des rapports sentimentaux, sexuels, et traités de la même façon. Un couple pourrait se filmer, et ça arrivera un jour, et ça nous changera complètement. Je filme son petit déjeuner et faisant l'amour de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Et nous, c'est la moitié nous est interdit. C'est quasiment un écrivain peut avoir une bonne soirée avec une personne, passer une bonne nuit avec elle, et dès qu'elle est partie, écrire l'affaire, écrire quelque chose de formidable. Nous, on peut pas faire. Alors, on travaille avec les miettes, mais on fait beaucoup avec peu.
Oui, mais dans le film L'Amitié, qui sort demain, vous dites à Florence Delay que l'écriture, comparée au cinéma, c'est l'endroit où il y a de l'ordre. On sent comme une forme d'envie, de respect, en tout cas, quand vous dites cela, Alain Cavalier.
C'est très difficile de comparer une invention faite par mon grand-père à un travail d'écriture qui date de millénaires. Hein. Je ne vois pas comment on peut... Alors, évidemment, le cinéma s'empare de la musique, de la littérature, des mots, de la peinture, de tout pour essayer d'exister. Mais je pense qu'il a un chemin à lui, très... Et que petit à petit, il va le dégager, et un jour... Alors, je pense que l'écran ne sera plus vertical... comme ça, encadré dans une salle avec des fauteuils devant. Ça va devenir spatial un peu, ça va prendre des formes insoupçonnées aujourd'hui, mais qu'il va devenir autonome. Autonome.
Non. Il ne sera plus là pour le voir.
Moi non plus.
mais alors, filmer la vie devant vous, c'est donc aussi parfois vous filmer, hein, filmer votre reflet, je l'ai dit tout à l'heure, Alain Cavalier, avec votre caméra au creux de la main. Alors, c'est la main de Boris Bergman qui est le premier bout d'humain qu'on voit dans votre film L'Amitié. Plus tard dans ce film, Maurice Bernard dit qu'il croit, lui, à la séparation du corps et de l'âme. À la mort, il pense que les âmes se retrouveront. Et alors, dans une archive, notre archive, non datée, cette fois c'est le cinéaste Robert Bresson qu'on va écouter. Renoir et Bresson...
Attendez, oui. Ce sont mes pères.
Je sais bien.
C'est la deuxième génération, il y a eu Louis Lumière... Bresson et Renoir,
et vous.
Et nous.
Alors Bresson, dans cette archive, il commence par citer une phrase de Blaise Pascal,
oui.
Qui dit « L'âme aime la main, et la main, si elle avait une volonté, devrait s'aimer de la même façon que l'âme l'aime. » Puis Robert Bresson poursuit.
Voilà la phrase de Pascal. Je l'avais perdue, je pensais la trouver dans une édition scolaire et elle se trouve dans l'édition de Port-Royal. Là même la main. Et il ajoute, et la main, si elle avait une volonté, devrait s'aimer de la même sorte que l'âme l'aime. Ce qui est très curieux chez Pascal, qui semble attacher une grande importance au corps. Et ça fait penser à la phrase de Léonard dans les cahiers, qui dit à peu près... Au moment de la mort, l'âme pleure parce qu'il faut qu'elle se sépare de cette merveille qu'est le corps. Et Pascal continue un peu plus loin, je saute quelques lignes, des choses très curieuses, il dit « Si les pieds et les mains avaient une volonté particulière, jamais ils ne seraient dans leur ordre qu'en soumettant cette volonté particulière à la volonté première qui gouverne le corps entier. Hors de là, ils sont dans le désordre et dans le malheur, mais en ne voulant que le bien du corps, ils font leur propre bien. » Ce qu'il veut dire en somme, c'est que les pieds et les mains ont une volonté. Et c'est cette indépendance des pieds et des mains qui est quelque chose de bien proche de ce que je pense de l'automatisme et de l'importance de l'automatisme dans notre vie, dans la vie courante, et que j'essaie d'utiliser dans les films. Vous-même ne savez pas que votre main est venue se poser sur votre genou. C'est pas vous qui l'avez mise là, c'est elle qui l'a mise là d'elle-même. De même, quand nous fumons, souvent, notre main va chercher, sans que nous lui demandons, la cigarette dans le paquet, cigarette, et elle nous la met dans la bouche, et nous ne voulons pas fumer, mais la cigarette est là. Et il faut opposer cet automatisme de la vie courante à la pensée au théâtre, où, en effet, l'acteur doit penser ses gestes et penser ses paroles. Et cela rejoint un chapitre de Montaigne dans lequel Montaigne dit « La main va souvent où nous ne l'envoyons pas. »
Et vous, les mains, Alain Cavalier, vous les voyez beaucoup. Vous y attachez une grande importance. C'était une longue archive de Robert Bresson, mais qui me semble sans doute faire beaucoup d'écho en vous. Qu'est-ce qui se joue avec les mains ?
C'est-à-dire que le corps humain, quand même, vous le regardez, c'est la vie courante. J'oserais dire qu'il n'y a pas besoin de lire Pascal pour le savoir. Vous êtes avec une personne, vous regardez son visage, et puis à un moment, elle fait un geste de la main qui vous plaît, et vous cadrez la main. C'est-à-dire que vous passez d'un plan du visage au plan de la main. Hein. Et puis après, vous vous levez, vous quittez la personne qui reste à la table du café, et vous la voyez en plan d'ensemble. Hein. Et puis, vous sortez, vous faites un panoramique là, et vous trouvez dehors. Et je pense que tout être humain est cinéaste, et je pense à un homme qui attend une femme au café, hein. Eh bien, je parle toujours de la rencontre, parce que c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est de rencontrer. Et il attend une femme, et il est en train de se faire un peu, par image, qu'est-ce qui va se passer dans le meilleur des cas, hein. Alors il a des flashs comme ça, et puis en même temps il passe à une description du bistrot. Il regarde à deux mecs qui sont en train de se... Il fait un film dans sa tête. Et si on avait des capteurs pour pouvoir l'enregistrer, ça serait absolument mais magnifique et beaucoup plus souple, beaucoup plus vivant que les films qu'on voit avec les acteurs.
Oui, c'est ce que disait Bresson. Les acteurs doivent penser aux gestes qu'ils font. Vous, ce que vous filmez, Alain Cavalier, ce sont les gestes.
Oui, et les gens ne pensent même pas. Ceux que je filme me voient filmer depuis. Oui. Ils ont confiance, ils ne me voient même pas filmer. Je veux dire, ils ne le sentent pas.
Alors, il y a aussi une chose importante dans vos films, qui est à nouveau présente, et ô combien dans l'amitié, c'est votre voix, c'est vous, Alain Cavalier. Est-ce qu'il vous a fallu apprendre à parler en filmant, ou est-ce que c'est venu très simplement, naturellement ?
Il y a tellement de paramètres, quand vous regardez à gauche, là, votre petite fenêtre, où il se passe des choses, mais où le hors-champ est très... peut rentrer dedans, la personne, il y a un petit récit qui commence à courir, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va aller le personnage à droite, est-ce que je vais le suivre, etc. Pour que ça soit réussi, il faut vraiment beaucoup de... Hein. C'est très compliqué. Et les réussites sont rares.
Alors du coup, vous dites, ah ben, et alors, marche jusqu'au bout du couloir, va vers la chambre.
Quand ça se passe bien, que j'ai peur que ça... Je donne une petite indication presque de mise en scène, mais que le spectateur, je sais que le spectateur va l'entendre, et ce qui m'intéresse aussi, c'est que le spectateur sache que c'est moi qui filme, qui lui propose le film. Que c'est pas une équipe, qu'il n'y a pas 25 personnes, et que c'est pas un point de vue objectif. C'est subjectif.
Ça vous a embarrassé quand vous avez eu votre petite caméra dans la main, la question de la subjectivité, est-ce que ça vous a posé problème ou est-ce que Vous êtes parti avec cet outil-là et ça a donné ces films-là.
Je suis parti un peu dans le noir, sans trop réfléchir, parce que c'est, on ne peut pas prévoir à l'avance. La seule chose, un jour, j'ai reçu une leçon d'un spectateur absolument magnifique. Je lui dis que je faisais attention de ne pas être trop subjectif, c'est-à-dire qu'on ne me voit pas en contre-champ, en train de... Et à ce moment-là, il m'a dit, mais vous rigolez ? On entend votre voix, c'est beaucoup plus révélateur que le visage. Hein, on vous connaît beaucoup mieux par la voix, et par la voix sans visage, qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace sur le spectateur, évidemment.
Ouais. Et vous dites ça à la radio et on en sait quelque chose.
Vous savez tout. Vous.
Non, non, nos auditeurs le savent. Mais alors, pour votre nouveau film, L'Amitié, alors, on va découvrir dans un premier temps Boris Bergman, écrivain et parolier, puis ensuite Maurice Bernard, producteur de cinéma, notamment de Thérèse, et puis Thierry Labelle, coursier, qui fut une fois acteur, donc, dans Libérame, et qui a continué son métier. Alors, on pourrait rapprocher formellement ce film de vos 6 portraits XL, mais ces 6 portraits, ils étaient tournés sur... ils provenaient de vos archives sur une très longue période pour ce nouveau film. Ces 3 amis, vous les avez filmés sur un temps beaucoup plus court, Alain Cavalier, avec un projet, 2 films. Vous aviez l'idée que ces 3 portraits feraient un film ?
Au début, non. Au début, je filme pour le plaisir d'en archiver. Puisque j'ai des centaines d'heures de films tournés, je ne fournis pas aux spectateurs. Mais je filme parce que j'ai envie de filmer. Et en même temps, je me dis, c'est peut-être une petite archive comme ça qui sera consultée, on ne sait pas, pour savoir comment on vivait à telle époque. Et alors, au début, je les vois parce qu'ils m'intéressaient quand même. Et qu'ils acceptaient, ils avaient confiance... Que je les filme. Et petit à petit, une petite familiarité entre 3. Hein. D'abord, j'avais travaillé avec eux, on avait travaillé les films ensemble. Et puis, tous les 3 avaient eu des destins un peu différents de ce qu'ils auraient souhaité. Maurice Bernard, producteur, aurait voulu être cinéaste. Mmh. Profondément.
Il attendait d'avoir 50 ans comme Mankiewicz.
Comme Mankiewicz pour se lancer dans cette aventure assez terrifiante. Et puis, le coursier avait eu une aventure africaine où il avait eu un bateau et il aurait aimé être un baroudeur des mers, quoi. Et le 3e, Boris Bergman, avec ses paroles magnifiques et ses petits poèmes, c'est Bachung qui les chantait, c'est Bachung qui était à la lumière, hein, et lui, non, souffrait pas, mais en fait, il devait pas, il aussi pensait qu'il aurait pu les chanter aussi bien, et je lui fais chanter Vertige de l'amour dans le film.
Et c'est ce qu'on va écouter tout de suite, extrait.
Par Boris.
Bah oui.
Ah oui.
L'extrait de L'Amitié.
Est-ce que tu pourrais chanter Vertige de l'amour, toi? Toi.
Alors là, est-ce que je peux me faire aider de
qui tu veux?
Hein? Ah ouais, parce que
c'est là, une chanson. Je voudrais la voir par ta bouche, à toi, qui l'a travaillée, qui l'a écrite.
Cette introduction est de Olivier Guindan, qui était guitariste d'Alain. Et qui, il faut bien le dire, nous a permis d'identifier la chanson. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés, quand j'éclate dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. La mère sub m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites.
Oh, oh, vertige
de l'amour. Les circuits sont niqués, un truc qui fait masse. Courant peut plus passer, le feuilleton qui passe, le feuilleton à la place.
Oh, oh,
vertige de l'amour. Tu chantes des souhaits à Saigon, je m'écris des cartes postales du fond. Si ça continue, je vais me découper, suivant les points, les pointillés, vertige de l'amour. Que rien ne passe, que transit reste le jour, au cri du marchand de glace, dans mes tabus qui passent. Je veux le feuilleton à la place, oh, oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante, et la tranchée vient d'être repeinte. Écoute, si ça continue, je vais me découper, suivant les points, les pointillés, vertige de l'amour. J'ai tiré trop fort, ça me prend les jours fériés, quand j'y déclappe dehors, j'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort, ça, ça me prend les jours fériés, quand j'y éclate dehors, quand j'y éclate dehors, quand j'y éclate dehors.
J'attendais ça depuis longtemps.
Le cri du cœur.
Eh oui, Maurice Bergman qui chante ses paroles.
C'est ça, parce que.
De Vertige de l'amour.
Il chante admirablement bien.
Alors, trois portraits pour l'amitié. Ils font une quarantaine de minutes chacun.
Oui.
Comment est-ce qu'avec la matière filmée, importante, hein, Alain Cavalier, comment est-ce qu'on fait récit ? Est-ce que vous avez une méthode ? Qu'est-ce qui reste dans le tamis ?
Et la méthode, c'est que vous regardez, hein, et tout ce qui n'est pas bon, vous l'enlevez. Tout ce qui ne vous convient pas, vous l'enlevez. Alors ça tombe, et après vous mettez bout à bout ce qui vous semble correct. Et à ce moment-là, automatiquement, se dégage un récit. Qui est-il ? Comment il s'appelle ? Est-ce qu'il a une femme ? Quel est son passé ? Où en est-il de sa vie ? Automatiquement. À condition absolue que vous gardiez la chronologie du tournage. Si vous ne pouvez pas changer la chronologie du tournage. Sinon, pour un effet de montage, ça obscurcit entièrement le récit. Et ça vient, après, vous polissez l'ouverture, par quoi vous allez ouvrir le film, comment vous allez le terminer. Vous avez exactement les mêmes réactions que dans les films à acteurs, à scénarios, etc. Parce que les lois du scénario sont copiées sur les lois de la nature, de la vie. Hein. Mais après, ça se redit un petit peu, ça devient un peu académique. Mais la vie est très bien construite. Et je trouve que ma vie, maintenant que je sais comment elle s'est passée, est vachement bien construite. C'est un excellent roman.
Ouais,
mais oui.
Excellent, et on en profite tous et toutes. Mais c'est Françoise Vidoff qui a monté ce nouveau film, L'Amitié, comme le précédent. Comment est-ce que vous travaillez avec elle ?
Mais le montage est un mot inventé par les producteurs. C'est-à-dire que quand je faisais des films, c'était monté pendant que je les tournais pour que le circuit de l'argent soit raccourci. Ce qui fait que le samedi où j'étais crevé, hein, ou le dimanche quand je travaillais le samedi, le monteur me présentait monter ce que j'avais tourné dans la semaine, et à partir du moment où je voyais que la c'était bien la fille du héros et qu'on la confondait avec sa maîtresse, j'ai trouvé le film correct. Et en fait, il me dépossédait entièrement de mon travail. Le montage fait partie du travail du cinéaste. Françoise Vidoff, qui a travaillé avec Reichenbach pendant longtemps, je travaille un peu mes roches, je ne pianote pas, après je passe sur ces machines sophistiquées, et nous discutons tous les deux des choses. Elle est pour moi capital et important, dans le sens que quand je prends une voie de garage, elle me ramène au centre. Elle serait plutôt du côté de l'humour que du côté de un petit peu.
Elle est très
non,
drôle.
Non, c'est je ne peux pas me passer d'elle et je ne peux pas me passer non plus de Michel Sédoux qui prend mes films quand je les ai faits et qui les met, comme il dit, dans la machine et qui dépense de l'argent pour qu'ils soient vus, quoi.
Mais qu'est-ce qui fait que vous savez que le. Après toutes ces discussions et ces allers-retours avec François Zitoff, qu'est-ce qui fait que vous savez que le film est terminé, qu'il ne faut plus y toucher ?
Quand il commence à m'emmerder.
C'est vrai ?
Voilà, c'est exact, c'est une liaison.
Ouais.
Et à un moment, on dit, bon, alors tu veux changer le début, mais qu'est-ce que tu vas mettre à la place ?
Il hein n'y a rien de mieux, donc
voilà, C'est comme dans le pouvoir, changer quelqu'un, mais il faut mettre quelqu'un à la place. Hein, c'est toujours le même problème.
Il faut, on le comprend, beaucoup vivre et bien vivre pour avoir quelque chose à filmer, pour bien filmer justement. Mais pour vous, vivre et filmer, on a l'impression que c'est un seul et même mouvement, Alain Cavalier, depuis toutes ces années, ou depuis que la caméra est dans votre main en tout cas.
Alors, c'est des questions que je me pose intimement, c'est-à-dire que des fausses questions même. Vivre et filmer, vivre ou filmer ? Filmer seulement et la vie, on la connaît de moins en moins, ne supporter que le filmable et n'attendre que ça. Je pense que les musiciens ils composent continuellement, d'ailleurs ils sont souvent très distraits, hein, parce ouais. qu'ils entendent quelque chose, une mélodie dans leur tête. Les écrivains sont toujours en train d'assembler des mots, parce que c'est une déformation professionnelle, tout simplement. Hein. Donc, on mélange la vie avec... Sauf qu'en vieillissant, en principe, où vous devriez quand même aller plus doucement et moins publier, et moins vous montrer... Ça vous aide quand même à penser à autre chose. Voilà.
On approche de la fin de cet entretien, Alain Cavalier, mais... Cocteau disait « Le cinéma, c'est la mort au travail », alors que chez vous, j'ai l'impression qu'on pourrait inverser la proposition, Alain Cavalier. Justement, filmer, c'est rendre les visages, les corps, les gestes, c'est un grand mot, mais éternel.
Ben, c'est les préserver d'un oubli totalement définitif. Et ma passion, c'est que faire durer certaines choses que j'ai aimées, hein, au-delà des limites permises par la loi du temps et de la vie, voilà.
Je rappelle que ce nouveau film, L'Amitié, sortira demain au cinéma et attendez impatiemment, vous pouvez le commander déjà sans doute, le 9 mai prochain sortira chez Tamasa le combo Blu-ray et DVD de votre film Libérame, sorti en 1993. Il me reste, Alain Cavalier, à vous remercier d'avoir été notre invité ce soir.
Merci de m'avoir fait venir ici.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous parlez d'un film qui sortira demain au cinéma, Dirty, Difficult, Dangerous, de Wissam Sharaf.
Oui, triple D pour ce titre. Et on en français, sale, difficile, dangereux. Trois adjectifs donc qui viennent qualifier peut-être la situation des deux héros du film, mais aussi la ville de Beyrouth, dans laquelle se passe la majeure partie de l'action. Et une dynamique poétique pour ce film singulier, beau et cruel comme un conte, le second long métrage du réalisateur libanais Wissam Sharaf. Alors c'est l'histoire de deux amoureux. Média est éthiopienne, employée de maison dans un appartement bourgeois au cœur de Beyrouth, où elle a en charge un homme atteint d'Alzheimer. Ahmed est réfugié syrien, qui erre dans les rues à la recherche de ferrailles à revendre pour se faire un peu d'argent. Ils vivent une relation empêchée de plus en plus par leur statut respectif de paria au banc de la société libanaise, alors que plusieurs phénomènes presque magiques se produisent. Lui constate que son bras se transforme jour après jour en une matière qui ressemble à du métal. Elle gagne un concours pour aller passer un séjour de rêve dans un hôtel de luxe. Oui, c'est vraiment un film étonnant qui déjoue beaucoup d'attentes. D'abord parce qu'il joue finement avec le genre du film à sujet, un sujet potentiellement triple. D'une part, la guerre en Syrie et le drame des réfugiés qui affluent et survivent dans les pays voisins. D'autre part, la situation au Liban de milliers de travailleuses domestiques esclavagisées dans une sorte de système d'exploitation où on leur confisque leur passeport, mais aussi la situation catastrophique du Liban. Aujourd'hui, à la convergence de ces trois réalités, Wissam Sharaf aménage un espace singulier pour la fiction, un espace qui n'enferme pas le récit et les personnages, mais en même temps qui ne nie pas la gravité du réel et le documente intelligemment dans une forme en y arrimant le fantastique et le conte.
Vous écoutez, on se demande comment il y arrive, sans que ce soit quand même un peu gênant, parce qu'on pourrait imaginer que c'est une manière d'esthétiser toute la misère du monde.
En effet, c'est un risque avec lequel Wissam Sharaf joue tout du long, avec habileté, sans verser dans l'évitement. C'est vrai de la manière, par exemple, dont le film représente les lieux traversés par les personnages. Ahmed est sans abri, il dort au début du récit dans une sorte de semi-cabane en ruine mangée par la verdure, au milieu de laquelle trône un lit de fortune aux couvertures colorées. C'est triste et c'est aussi très beau, ça ressemble à un décor de théâtre. L'artifice est tout à fait assumé et apporte au film une étrangeté, un décalage bienvenu dans le réalisme avec lequel il aborde par ailleurs les rues de Beyrouth ou l'intérieur cossu de l'appartement dans lequel travaille Média. Dans le camp de réfugiés qu'il rallie plus tard à la frontière, le film documente certes les conditions de vie précaires dans lesquelles vivent des familles entières, mais s'autorise soudain un gag qui décale le regard. Sur un nouveau bâti au cœur du camp, des travailleurs déroulent une bâche protectrice confectionnée à partir d'une gigantesque affiche publicitaire représentant un fessier féminin. Ce décalage, il tient aussi à la beauté resplendissante des deux acteurs. Une séquence montre Média chez un coiffeur de la communauté africaine à Beyrouth avec une coiffe de perles traditionnelle qui la transforme en princesse de conte de fées. Très minces tous les deux, lui très grand et très pâle, elle très petite et noire. Ils forment un couple spectaculaire et cette beauté est davantage que juste une plastique. Elle est une sorte de parti pris politique. Les parias, ceux qui sont en bas de l'échelon social, dont leur haillon de mendiant ou leur tablier de servante sont les plus beaux, mais aussi ceux qui s'aiment le mieux. Le film parvient à insuffler une tendresse infinie jusque dans leur apparence burlesque, elle toute petite, lui si grand. Une tendresse qui tient moins à ce qu'ils se racontent qu'à la manière dont ils se regardent et se tiennent. Média le dit simplement dans un des rares dialogues qu'ils partagent, on doit veiller l'un sur l'autre. Et c'est d'abord lui qui la porte sur son dos quand elle chute et se blesse à la jambe. Puis à la fin, c'est elle qui le soutient comme une béquille quand son bras, devenu métal, devient lourd à porter. Cette réciprocité, cette entraide amoureuse constitue le cœur battant du film, une sorte de chaleur, de douceur pas naïve qui répare un peu sans le cacher de ce réel sale, difficile et dangereux.
Que vous nous donnez très envie de voir ce film de Wissam Sharaf qui sort donc demain dans les salles. Merci beaucoup, Lucille Comeau. Bonsoir Marie Sorbier.
Bonsoir Arnaud.
Dans Affaires en cours ce soir, vous revenez sur l'arrestation d'un éditeur français en Grande-Bretagne.
Oui, le 17 avril dernier, un agent littéraire responsable des droits étrangers pour les éditions La Fabrique a été arrêté à Londres, soupçonné de représenter, je cite, un danger d'ordre terroriste, alors qu'il se rendait à la Foire du Livre. On a appris depuis que son interpellation serait liée à sa participation aux manifestations contre la réforme des retraites en France. Je suis allée demander des précisions sur cette drôle d'affaire à Jean-Yves Mollier. Jean-Yves Mollier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire de l'édition. Cette histoire semble sortie d'un mauvais polar. Pourquoi, selon vous, la police britannique s'en prend-elle à cet éditeur? Quelle est la crainte qui soutient cette arrestation?
On a l'impression que c'est complètement farfelu. C'est-à-dire que la police anglaise arrête, comme s'il s'agissait d'un dangereux terroriste, le responsable des droits étrangers d'une toute petite maison d'édition, honorablement connue à Paris comme d'ailleurs à l'étranger. Elle l'arrête pour des raisons très précises. Il semble bien que ce soit la police française de M. Darmanin qui lui ait communiqué le dossier et qui lui ait dit « ce monsieur a manifesté à Paris contre telle et telle réforme à propos des retraites, mais regardez plus précisément dans son catalogue s'il n'y a pas des gauchistes, de dangereux révolutionnaires qui sont édités ». Et d'ailleurs, dans les questions qui vont lui être posées, il y aura effectivement une intrusion dans le catalogue. C'est absolument scandaleux. On n'a jamais vu ça depuis des décennies de mémoire d'éditeurs. C'est autant plus grave que la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, jusqu'à maintenant, se caractérisaient plutôt par une sorte de grand libéralisme. Après tout, des terroristes se sont promenés, voire se promènent encore en toute liberté, en Grande-Bretagne parce que les tribunaux britanniques refusent de les extrader. Or là, on arrête, enfin, on met en situation d'arrestation, car il ne faut pas oublier que s'il a été libéré au bout de 24 heures de garde à vue, il est convoqué dans un mois, il a dû verser une caution. Quel était son crime ? Revenons aux faits, il allait au Salon du Livre, à la Book Fair de Londres, qui est le deuxième rendez-vous après Francfort, le plus important au monde. Il y allait pour vendre la traduction en anglais, en italien, en espagnol, des livres de sa maison d'édition et pour acheter éventuellement d'autres livres. On lui reproche des faits qui concernent tout simplement son activité de citoyen et on essaie, je le répète, de s'introduire à l'intérieur du catalogue. Et c'est ça le plus dangereux. La police britannique a peut-être montré le bout de l'oreille. La police britannique, je dirais, du nouveau gouvernement. C'est-à-dire que on demande à un éditeur de justifier ses positions idéologiques. Ce qui est absolument, je le répète, scandaleux.
Alors, les éditions La Fabrique, on en parle souvent à ce micro, ont un catalogue d'essais qui pensent le monde, on peut le dire comme ça, parfois avec des positions radicales. Est-ce que vous pensez que c'est la teneur de ces publications, de cette maison d'édition, qui sont finalement la raison principale de l'arrestation ?
C'est difficile de répondre puisque M. Darmanin ou son ministère n'ont pas donné les raisons pour lesquelles, dans un premier temps, cet éditeur avait été retenu à Paris à la gare du Nord. On lui a fait rater son train, il a dû prendre le suivant. Quelles étaient les questions qu'on pouvait lui poser ? Ces questions, cet éditeur les a indiquées. On lui a demandé ce qu'il pensait de la réforme des retraites, ce qu'il pensait de M. Macron, pourquoi il publiait tel et tel livre. Et c'est pourquoi on a l'impression que c'est le dossier parisien qui a été transmis à la police londonienne. Mais ça ne tient pas debout. Car les positions radicales, ça veut dire quoi pour un éditeur ? Un éditeur, c'est quelqu'un, notamment dans le domaine des sciences humaines, qui invite les lecteurs à penser, et à penser par eux-mêmes, et non pas à penser en fonction des fake news qui sont développées un peu partout, ou en fonction du gouvernement légitime, d'ailleurs, qui siège dans son pays. Non, on l'invite à penser par lui-même en lui offrant des livres d'auteurs très différents. Quand vous regardez le catalogue de La Fabrique, vous avez des auteurs, évidemment, qui couvrent tout le panel de l'idéologie.
Le monde de l'édition a réagi très fortement et très vite à cette arrestation. Est-ce que c'est, selon vous, un bon signe, un signe que la liberté est encore quelque chose que l'on chérit en France ?
Oui, le monde de l'édition avait réagi très très vite en 1989, lorsque Christian Bourgois avait décidé d'éditer la version française des Versets sataniques. Et là, tous les éditeurs avaient proposé de co-signer avec lui, de co-éditer les Versets sataniques. Là, ce ne sont pas tous les éditeurs qui ont réagi, mais quand même plusieurs dizaines de maisons d'édition. C'est une très bonne chose. On souhaiterait d'ailleurs que le syndicat national de l'édition se porte partie civile, en quelque sorte, et aille à Londres dans 4 semaines demander aux Britanniques ce qu'ils ont à reprocher à un de leurs confrères.
Est-ce que cet événement est, selon vous, un symptôme de la baisse ou de la crise des libertés que l'on vit en France ?
Oui, en France, au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde. La censure n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Il faut savoir que de plus en plus, les éditeurs, par crainte de déplaire à telle ou telle communauté, à tel ou tel groupe, font relire, ou plus exactement lire avant publication par des avocats, les manuscrits qui vont être mis ensuite à l'imprimeur. On est entré dans une période où on est de plus en plus frileux. Nos libertés sont menacées.
Pourtant, on a l'impression qu'en France, on est un petit peu préservé. Vous parlez des relectures, par exemple, des livres, des changements. On a, alors peut-être à tort, l'impression que la France reste encore un pays de liberté d'expression.
Si on se compare avec la Hongrie, la Pologne ou la Russie, nous sommes préservés. Nous avons davantage de liberté que les citoyens polonais, russes ou hongrois. Mais pour autant, nos libertés ne progressent plus. Elles régressent. Car en effet, à partir du moment où des avocats sont invités à lire les manuscrits pour vérifier en amont leur contrôle, ça veut dire qu'on ne peut plus écrire n'importe quoi. Et il y a plus grave, la réécriture des textes. Qu'est-ce que ça veut dire d'enlever les expressions « nigger » de Huckleberry Finn, un des plus grands romans antiracistes de la littérature américaine ? Qu'est-ce que ça veut dire de reprendre Roald Dahl, qui est un des plus grands écrivains pour la jeunesse, en enlevant les allusions aux gros, aux petits, etc. La méchanceté fait partie de l'univers des enfants. Dans quel monde est-ce qu'on veut les faire vivre ? Ou plutôt, de quoi veut-on les préserver ? Et il n'y a rien de pire que de vouloir préserver les autres, parce qu'à partir de là, on leur enlève toute leur liberté.
Mais vous avez l'impression que les maisons d'édition se font le jeu de ces nouvelles réécritures ? Elles sont obligées de s'y soumettre ?
Vous savez, les maisons d'édition, si elles ne veulent pas perdre de l'argent, elles sont amenées effectivement à se plier à ces diktats. Alors toutes ne le font pas, mais il y a une tendance, notamment dans les grands groupes, à ne pas risquer de perdre de l'argent et donc à se soumettre à cette autocensure qui est la pire des formes, au fond, de menace contre la liberté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si on n'est pas capable de publier des œuvres qui heurtent nos convictions, qui nous choquent et qui nous obligent à réfléchir?
Oui, c'est aussi un des buts de la littérature. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Yves Mollier.
Et merci à vous, Marie Sambier. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter au podcast et sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Kai Setoundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Apolline Limosino, Marie Sorbier et Lise Ripoche.